ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Madame Aissatou Faye, vous êtes enseignante, chercheure à l'Université Toulouse de l'Almirail, mais aussi à Saint-Louis. Vous travaillez dans le groupe CERTOP, Sagesse, Simone, pour réfléchir à la position des femmes dans les sociétés, et entre autres au Sénégal, en Casamance, mais aussi en France, puisque vous avez créé un groupe dont vous nous parlerez le petit poème. En tout cas, merci d'être venu. Vous étiez venu il y a 2 ans.
Oui. Et je suis très contente de revenir.
Oui, vous aviez parlé plutôt là de votre famille, de votre foi, puisque votre papa était imam et a traduit le Coran Wolof, ce qui n'est pas évident.
Non.
Mais vous êtes aussi dans l'interreligieux et nous nous sommes rencontrés dernièrement au colloque international des sociologues des religions,
oui, la effectivement.
SISR. Il s'agissait alors de dialoguer sur le rôle des moines dans les sociétés. Parce que nous étions rencontrés il y a de cela de nombreuses années au monastère des moines bénédictins de Cœur-Moussa.
Oui.
Nous rencontrons de temps en temps parce que vous fréquentez les Clarisses, les sœurs Clarisses à Toulouse. Et vous êtes dans d'autres groupes de prière. D'ailleurs, je pourrais tout de suite vous demander quelle est la position des femmes dans le Coran, parce qu'on sait que certaines femmes en France conduisent la prière. Ce n'est pas interdit, et chantent. Et je pense à Eva Jeannadin ou Anne-Sophie Monsigné ou à d'autres femmes qui pensent que tout ce qui est dit, souvent, ce sont des fausses querelles. Votre position, c'est justement de rendre visibles les femmes dans la société par tout le travail qu'elles font et qui n'est pas reconnu à sa juste dimension. C'est le problème du développement.
C'est aussi une dimension du développement, puisque le développement n'est pas seulement d'acquérir des ressources matérielles pour doter les gens, c'est aussi faire de sorte qu'ils aient les ressources spirituelles, on va aller droit au but, des ressources humaines, des valeurs, qui va faire que la source du développement puisse prendre. Voilà, l'histoire des politiques de développement nous a montré que beaucoup d'échecs ont été analysés à cause d'un manque d'intégration entre ce qu'on proposait aux populations bénéficiaires, entre guillemets, de ressources matérielles sans que ça soit connecté à leurs valeurs anthropologiques. Et chaque fois que ça a été le cas, on a remarqué, les spécialistes ont remarqué que ces politiques de développement-là étaient tout le temps vouées à l'échec. Voilà, pour dire que le développement, ce n'est pas simplement qu'un objet générique, c'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble de valeurs morales, de valeurs spirituelles. Je travaille un peu sur la question de la philanthropie aussi, et on n'a pas besoin de rappeler ce que veut dire la philanthropie. Voilà, on ne peut pas faire de développement sans philanthropie, sans don, sans amitié, en impliquant toutes ces dimensions-là, à la fois morales, spirituelles.
Vous ne faites pas seulement l'analyse des grands programmes internationaux ou la gouvernance au niveau national, mais aussi très concrètement, et vous avez fait des enquêtes de terrain sur la participation des femmes au niveau local dans les petites associations, des petites coopératives.
Oui.
C'était à Saint-Louis, Rosbecchio, c'est ça?
À Rosbecchio, au
et
nord de Saint-Louis, presque à la frontière mauritanienne. En fait, parler des femmes, les femmes sont un vecteur, une sorte de variable structurante qui nous permettent très rapidement de juger la modernité, le progrès d'une société ou d'une association ou d'une religion. Je pense que c'est vraiment un très bon indicateur. Analyser la place des femmes, c'est analyser le dynamisme d'une activité quelconque et d'une religion.
la reconnaissance de leur travail, mais aussi la transmission des valeurs. Vous-même, dans votre famille, vous avez été baigné dans une culture. Et vous êtes venu en France il y a de cela très longtemps et vous devez vous acculturer tout en restant sans cesse entre là-bas et ici.
Écartelé, ambivalent.
Plusieurs cultures.
Oui, ça crée parfois un peu de la schizophrénie. Hein. Moi, quand je rentre au Sénégal, ma façon de m'habiller, ma façon de parler, ma façon de réagir aux événements est grosso modo souvent différente de celle des autres femmes de mon âge.
On a parlé de la blanchitude, même pour les femmes de couleur, les hommes de couleur, avec une forme de susceptibilité ou de la distinction entre les groupes. C'est difficile de faire communauté.
Alors que je suis toute noire, c'est pas vraiment... Il y a une expression chez nous au Sénégal qui consiste à dire si on voit quelqu'un qui est un peu occidentalisé, quelle que soit la noirceur de sa peau, on va dire que c'est une blanche ou c'est un blanc. Donc le blanc n'est pas la couleur, ne désigne pas la couleur. Quand on te traite de blanc, ça désigne une mentalité, une façon de parler, un rapport aux choses. Donc, tu peux être... Je suis bien, bien noire et pourtant, souvent, on se moque de moi en me taxant de blanc parce que ça fait très longtemps que je suis ici. Et que oui, bien sûr, donc j'ai été aussi acculturée, même si je me défends aussi. Je me défends pour préserver mon identité qui fait partie de mon identité première. C'est toute la difficulté, d'ailleurs, de dire c'est quoi l'identité.
D'ailleurs, l'école au Sénégal, mais pas seulement, dans beaucoup de pays sous développement, est un tremplin pour l'immigration parce qu'il y a une idéologie, il y a ce fantasme de l'Europe qui va apporter le bonheur, le progrès, la richesse matérielle, alors qu'en fait, la dignité de ces femmes, qui sont peut-être pauvres au niveau des ressources, mais qui ont une inventivité.
Exactement.
Et vous nous avez apporté un poème. Un poème qui est celui de l'eau.
Oui,
vous avez écrit ce poème et vous le faites mimer par un groupe de musiciennes à Toulouse.
Voilà, j'essaie de vulgariser un peu mes réflexions, essayer d'aller sur, arrêter un peu, sortir du carcan universitaire où on a un jargon. Lorsqu'on en parle à l'extérieur, ça ne veut absolument rien dire pour les gens. C'est un peu comme le travail de Fatou Sarr, qui fait des BD partir de ses recherches universitaires.
Historiques.
Donc, exactement, pour raconter aux enfants et aux personnes qui sont d'un niveau scolaire assez moyen, l'histoire de la science, tout simplement.
Et le colonialisme aussi, il faut le dire.
Bien sûr, bien sûr.
Mais avant d'en reparler et de parler de votre association Partage et Solidarité Internationale, écoutons ce poème sur l'eau.
L'or bleu. Amour, amour. Amour du prochain, tolérance. Indignados, mon œil. Amour et eau, fraîche de préférence. Les origines, soi-disant, de notre terre si aride. De l'eau, j'ai soif. Allez au Kenya, pays de la belle faune africaine. Pays des safaris où des hommes tuent d'autres hommes. Leur plus que frère pour défendre leur eau. Du sang qui coule à la place de l'eau. Remontez vers Éthiopie, continuez vers l'ouest, au Soudan. Après, passez la frontière, toujours à l'ouest, vers le Tchad. Le Niger n'est pas loin. Vous y verrez la même galère, la rareté de l'eau potable, qui divise les hommes et les affronte dans des guerres civiles et fratricides. Mais préférez redescendre encore et toujours par l'ouest, jusqu'aux vertes forêts du Cameroun. vous serez surpris de voir que l'or bleu y est aussi rare que dans les grands déserts du continent. Pourtant, il est sous leurs pieds, partout sous leurs pieds, dans l'est et l'ouest, au nord et au sud, au centre. L'eau, partout où la vie germe et coule. Pourquoi les laisse-t-on aller si loin pour la puiser et s'entretuer au passage? Amour, égalité, liberté, fraternité, sororité et autres idées et idiomités du même genre. Pitié, de bouche en bouche, de mots en mots, ils finissent en gag.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et Aissatou Faye, sénégalaise, enseignante-chercheur à l'Université de Toulouse et de Saint-Louis. Vous travaillez donc sur...
Ezigenchor, parfois.
Ezigenchor. Vous êtes aussi active dans le SSIAO. Vous allez nous en parler sur le service social de l'Afrique de l'Ouest. Et on a entendu le mot pitié, mais il ne s'agit pas de charité, il s'agit de justice, il s'agit de réfléchir à la place de tous, des femmes, des enfants, dans la société.
Moi, le terme pitié ne me pose aucun problème. Je pense que les hommes et les femmes ont besoin de ressentir la pitié pour agir. La pitié peut être un excellent sentiment pour aller au-delà de soi et puis pour donner de soi.
Mais il y a aussi le commerce et la reconnaissance du travail.
Bien sûr.
Et vous avez créé donc cette association où on peut échanger vêtements,
oui.
Des livres,
oui.
Du savoir et des sentiments.
Oui, et des sentiments et de la bienveillance. Le but de cette association, en fait, à l'origine, on a créé en 1993, depuis, avec une amie amoureuse qui s'appelle Sandrine Bougie, amoureuse de l'Afrique, qui a beaucoup voyagé en Afrique de l'Ouest. Et à chaque fois, à chacun de ses séjours, elle observait, et avec beaucoup de fascination, hein, je la voyais très bien, la culture artistique, la culture, l'artisanat. Elle était vraiment toujours avec des yeux émerveillés, et puis à un moment donné, ça lui a sauté aux yeux. Surtout quand elle demandait le prix. Chaque fois qu'elle voulait acheter quelque chose, elle pensait qu'on allait lui donner un prix exorbitant. Et en fait, chaque fois qu'on lui donnait un prix, elle trouvait que c'était injuste par rapport à l'ingéniosité, à la beauté de ces différents produits-là, que ces gens le vendent à des prix aussi modestes, quoi.
Et à la fois, tout se négocie, il y a une forme d'échange,
oui, oui, oui,
avec un jeu de rôle
qui fait partie
de la culture.
Et on dit que ça fait partie du charme. Mais en tout cas, pour revenir à cette association-là, le but vraiment, c'était d'aider des artisans locaux à pouvoir vendre un peu sous le même modèle d'artisans du monde, peut-être que vous connaissez, d'essayer de leur créer une sorte de circuit de commercialisation dans des pays occidentaux, donc au-delà des grandes surfaces commerciales qui produisent en Chine, essayer vraiment de leur trouver de petites filières de commercialisation. Voilà. L'idée est partie de ça.
Et aussi d'éviter parfois l'émigration. On connaît le mythe de l'Occident. Je suis venu, j'ai vu, je n'y crois plus.
Et je suis reparti.
Et je repars parce que ma place est là-bas aussi.
Oui.
Et en même temps, nous voyons ces enfants talibés, mendiants, où on a
ou jeunes, modifié, tout simplement, ou des en jeunes. Détresse.
Parce qu'il y a un double sens du mot talibé. Il y a celui qui étudie avec un maître, un sage.
C'est le vrai sens de talibé.
Et puis, il y a ces mendiants qui sont en dessous de la dignité de l'homme, qui ne vont pas à l'école alors que l'école est obligatoire.
Oui, et ils vont au Dara. Le Dara est une école. Est tiré de la langue arabe. Dara, ça veut dire école. Donc, ces enfants vont à l'école, sauf qu'ils vont donc à l'école coranique.
Ils apprendront l'arabe et pas le wolof ni le français.
Et souvent, ils n'apprennent pas l'arabe, ils apprennent le Coran. Dans les premières années de leur cursus dans ces daras-là, le but, c'est vraiment de mémoriser, ce qu'ils appellent les hafiz. Ça veut dire mémoriser. Ça veut dire, un enfant, ils ont des techniques d'apprentissage qui permettent à un enfant, au bout de 3-4 ans, de mémoriser totalement. Un enfant de 10 ans, mémoriser complètement le Coran sans pouvoir savoir
comprendre écrire, la signification.
Exactement. Ni pouvoir écrire en seul alphabet, une seule lettre de l'alphabet arabe.
Dans la tradition, c'est en répétant la sourate du jour qu'ils recevaient leur nourriture, alors que maintenant, on leur demande de recevoir de l'argent. On ne sait pas ce qui va devenir. Vous avez parlé de la tradition, de la traduction. Parlez-nous de votre papa qui a transcrit une écriture qui était, pardon, un langage oral en écriture.
Voilà, en fait, mon père, c'est un enseignant qui est maintenant à la retraite et très malade. Donc, il a complètement abandonné ses activités. Mais pendant 60 années, il a travaillé sans relâche à la promotion de cet alphabet qu'il a créé. Parce qu'on parle beaucoup de promouvoir les langues africaines, écrire les savoirs africains avec des langues, avec des
vernaculaires,
écritures africaines.
Avec l'écriture, oui.
Il a l'habitude, mon père, de répéter que à la suite de Charanta Diop, qui est ce savant dont on a donné d'ailleurs le nom de l'université Charanta Diop de Dakar, l'UQAD, qui disait que le génie d'un peuple ne peut se traduire qu'à travers sa langue maternelle. Ça veut dire imaginons-moi, je viens en France, j'ai un parcours de scolarité, j'ai mes diplômes, mais c'est des gens qui sont persuadés que jamais tu ne seras aussi bon que les autres qui apprennent avec leur langue maternelle. Ça veut dire que j'aurai toujours une sorte de béquille parce que je n'ai pas appris avec ma langue. Donc mon père part de ce principe-là pour créer cet alphabet qui s'appelle l'alphabet Garay. Donc ce n'est pas une langue, il aime beaucoup à le préciser. C'est un alphabet qui a été créé dans le but de retranscrire les sonorités négroïdes, comme il dit.
Comme la Kora chez les moines bénédictins, reprennent une partie de la tradition pour acculturer le message que certains diront de l'évangile, mais d'autres diront universel. Car avec votre papa, nous avons échangé sur Youssef dans le Coran, Joseph, dans le Coran et dans la Bible, avec le Pharaon, avec la sortie, avec l'injustice qui est faite à cet homme qu'on a mis en prison pour cause d'adultère.
D'adultère.
Et donc, le débat qui est posé, c'est que nous révèlent ces livres sacrés. Vous êtes universitaire et en même temps, vous avez une foi profonde, foi et raison. Quelle est votre foi dans ce Dieu que vous nommez ou que chacun peut-être cherche à nommer ? Quête de sens.
Foi et raison, moi, encore une fois, foi et raison, je ne les divise pas. Pour moi, la foi est une dimension de la raison. Voilà. Les religions sont un corpus. En tout cas, la Bible, l'Injil, ce qu'on dit chez nous, l'Injil, la Torah, le Coran, pour moi, c'est des corpus de savoir scientifique qui ont d'autres procédés. Mais pour moi, ils ont un même statut, ça veut dire qu'ils donnent une parole sensible qui parle aux gens, qui chaque fois fait sens. Et puis la science dure, les sciences dures, les sciences sociales, mais c'est juste des connaissances qui donnent sens à ce qui se passe. Pour moi, exactement les religions, c'est la même chose. Donc foi et raison, j'ai absolument du mal à pouvoir les
rationaliser. Et en plus, il y a la poésie, il y a la musique, et vous avez apporté justement ce chant qui évoque la misère de ces enfants talibés dont nous pouvons voir une image sur le site de Radio Présence, puisque vous nous l'avez apporté. Nous allons la commenter lorsque nous aurons écouté cette musique dont vous traduirez quelques phrases. Avec Madame Fine, nous évoquons cette Afrique et cette image que vous commentez. Ce n'est pas en fait seulement les talibés.
Oui, c'est j'adore cette chanson, vraiment. Je la trouve... c'est dommage que ça ne soit pas en français, qu'on ne puisse pas le traduire phrase par phrase en français. C'est un jeune, en fait, un jeune Sénégalais, on peut dire lambda, parce que ça parle bien d'une situation générale. C'est une jeune en détresse, dont la situation économique et sociale est très difficile, et qui, au cœur de la nuit, en fait, dit ces phrases-là, invoque son Seigneur, et voilà, que c'est la foi qui le fait vivre, qu'il a un mal-être, mais que la foi, le Lord, là, il utilise l'anglais, c'est son Seigneur qui le maintient. Il sait que ce n'est pas la vie qui va le sauver, mais c'est la mort qui va le sauver. C'est la mort, le médicament.
On retrouve le psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De voilà. Qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Mais vous nous avez apporté aussi un poème, une réflexion, lorsque nous avions évoqué sur la figure de Jonas dans le Coran et dans la Bible. Et c'est une question qui nous interroge sur l'au-delà, sur le mystère de la rencontre et sur la transcendance qui nous touche tous les jours.
Alors, j'avais choisi cette sourate-là qui fait 11 versets. C'était justement pour faire le lien entre foi et raison. Parce que moi, l'intérêt de la religion, pour moi, c'est vraiment comment elle fait sens par rapport à mon quotidien, par rapport à mon rapport aux uns et aux autres. Donc, je vous lis très rapidement cette sourate. Donc, au nom de Dieu, tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses bienfaits et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi? Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le.
Nous sommes dans cette quête de la dignité et de la solidarité.
Exactement.
Pour tous ces hommes et ces femmes qui cherchent peut-être le bonheur, mais au moins un sens à leur vie et qui le trouvent dans l'échange. Et vous nous rappelez votre association, Book
Agligay, qu'on peut joindre au numéro 07 68 21 81 93.
Merci Madame Fay. Et merci à Christophe pour l'enregistrement. À
merci
bientôt.
Beaucoup.